entrons dans des temps de grâce. On va lire le dernier texte du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Et j'ai besoin de deux autres lecteurs pour m'aider à lire le texte. Vous pouvez tourner dans votre Bible, Apocalypse 22, à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Mais moi, je vais lire à l'écran le même texte. Et s'il y a deux personnes qui peuvent m'aider, ça serait super. Excellent. Viens en avant. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait m'aider avec la lecture à voix haute? Oh, Valentine, super. Alors, si tu vois bien, c'est bon. Ou peut-être tu as ta Bible avec toi. OK. Alors, bon. Eh bien, veux-tu commencer?
Oh, le pasteur d'abord.
Pasteur d'abord? Tu vas lire la deuxième diapo. Après ça, tu vas lire la troisième diapo. Ça va être à partir du verset 14 jusqu'à la fin de 17. Et moi, je vais lire la fin. OK. On va suivre ensemble. On y va. Alors, il est question de l'ange qui est en train de donner au prophète Jean la tournée du ciel avec toutes les visions. Alors, Jean dit de l'ange ceci. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Là, c'est Jésus qui parle. Hein? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Alors, 14 jusqu'à 17. Valentine. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. 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 On n'oublie pas le sens de « Amen ». Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles pour vraiment entendre ta parole à travers les paroles de ton serviteur ce matin. Amen. Il y a un grand érable rouge. Je pense que c'est un érable norvégien qui est devant notre maison, qui est dans la cour. Et en fait, j'aime l'admirer à travers la vitrine de notre salon où je m'assois souvent. Et l'hiver, je l'admire, même s'il est complètement nu. Et je pourrais être découragé, mais non, en fait, je sais que le printemps s'en vient. Et à chaque année, c'est immanquable, il reprend vie. À chaque printemps, mon érable rouge, il bourgeonne. Et là, les bourgeons me donnent de l'espoir. Et quand les feuilles, qui sont toujours un peu rouges, rouge-brun, rouge-marron, commence à éclore. Bien, ça me fait penser à l'été, puis ça me donne toutes sortes d'expectatives. Parce que là, je commence à penser à l'été. Oh, wow! Oui, la belle saison, ça, c'est le temps où je pourrais peut-être faire des voyages, des visites, du jardinage, des rénovations, peut-être prendre des vacances, peut-être faire des sports d'été, et ainsi de suite. Ça éveille mon imagination de voir cet arbre. Et de la même manière, le rouleau de la prophétie de l'Apocalypse joue ce rôle dans notre vie. C'est pour inspirer notre imagination, inspirer notre vision de l'avenir, la vision de notre avenir au-delà de la mort, quand on va être dans le paradis, puis ensuite dans la Nouvelle Jérusalem, comme on a vu, mais aussi notre vie future sur la terre. Ça nous donne des nouvelles idées par rapport à comment vivre. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, parce que le texte de la conclusion nous le rappelle. Jean, ici, nous laisse cette conclusion qui nous dit comment voir tout le livre de l'Apocalypse. Hein? On se souvient qu'il y a Jésus qui apparaît à Jean sur terre, il est complètement bouleversé. Après, Jésus l'amène dans les cieux pour lui dévoiler qu'est-ce qui s'en vient dans l'histoire de l'univers. Il déroule un rouleau avec 7 étapes, puis dans la 7e étape, il y a 7 autres étapes, et tout ça, c'est pour nous montrer ce qui s'en vient. Et il y a beaucoup de choses épeurantes, mais l'essentiel, c'est que le plan de Dieu est bon. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut sauver beaucoup, beaucoup d'âmes et les rendre citoyens de son royaume. Alors, l'objectif de Jean et de Dieu, finalement, ce n'est pas de nous faire peur, de nous paralyser par la peur. Ce n'est pas de nous immobiliser par la curiosité sur les événements de la fin. C'est pas non plus de nous induire dans des fausses pratiques, mais son objectif, c'est nous inspirer dans notre combat, premièrement, ensuite nous remplir d'amour, puis troisièmement, enflammer notre imagination. Un peu comme l'arbre dont je vous ai parlé tantôt, qui a comme éveillé à chaque année, il éveille mon imagination. Alors, cet été, on se prépare peut-être pour des nouvelles sortes d'activités, peut-être pour se reposer, peut-être pour profiter du beau temps. Mais je vous invite aussi, réfléchissez à l'Apocalypse aussi. Laisse l'Apocalypse travailler, entrer dans ton cœur. Pour te préparer à mieux combattre le combat de la foi. Aimez Dieu davantage et imaginez même des nouvelles manières de le servir là où tu es. Alors, en fait, je vais te dire ça un petit peu différemment maintenant. Dans le texte qu'on a lu, il y a comme 3 enseignements que je voudrais qu'on observe plus attentivement maintenant. Premièrement, les avertissements que Jésus, à travers l'ange, donne à Jean, qui sont pour nous. Deuxièmement, l'invitation à l'amour. Troisièmement, l'imagination. Un appel à mon imagination. Allons-y. Les avertissements. Alors, il y en a plusieurs. Je vais résumer en comme 3 points. Mais d'abord, je voudrais dire que la manière que Jean a écrit son livre pour nous, je trouve que c'est assez habile parce que les avertissements, c'est lui qui reçoit. Puis même, il y a un des avertissements, c'est parce qu'il commet une erreur, puis là, l'ange le corrige. Alors, tout ça, c'est un peu parce qu'il est humble. Il est le messager privilégié, mais au fond, il nous représente, puis il se met à notre niveau. Puis c'est un peu comme s'il nous disait, « Moi, je suis vulnérable à l'erreur, comme vous autres. Alors, écoutez-moi, ensemble, on va être avertis ensemble de ne pas commettre certaines erreurs. Alors, la première erreur dont on est averti ici, c'est au verset 10. L'ange va dire à Jean, « Ne scelle pas dans le secret la prophétie. » Oui, « Ne scelle pas la prophétie dans le secret. » Ça, c'est parce que parfois, Dieu donnait des messages à des prophètes concernant l'avenir. On le voit dans le livre de Daniel. Daniel reçoit des visions et les écrit. Puis là, Dieu lui dit, « OK, le rouleau où tu as écrit ça, ferme-le, scelle-le. Il faut que ça reste secret jusqu'à une époque dans l'avenir où est-ce que ça va être pertinent, où est-ce que les gens vont être capables de comprendre. Puis là, ils vont l'ouvrir à ce moment-là. » Mais cette fois-ci, l'ange dit à Jean de ne pas faire ça. Et ça serait une erreur de le faire. Et il dit, ne le ferme pas, c'est pour les chrétiens, c'est pour les églises, et il faut qu'ils sachent tout de suite, puis jusqu'à la fin des temps, c'est quoi le plan, puis finalement, ça va être quoi leur rôle, puis qu'est-ce que je demande d'eux. C'est pour ça qu'on a le livre de l'Apocalypse depuis le début de l'Église, et qu'on le lit. Donc, c'est disponible pour nous, et donc, Oasis, ne faisons jamais l'erreur de mettre l'Apocalypse sur la tablette, d'accord? Et quand je dis l'Apocalypse, par extension, toute la Bible. Dieu nous a donné une révélation écrite, c'est pour qu'on la scrute, c'est pour qu'on la lise, c'est pour qu'elle prenne racine en nous, d'accord? Donc, peut-être que sous prétexte que « Ah, bien, la Bible, c'est compliqué », sous prétexte que ça prend du temps pour la lire, sous prétexte que, bien là, parfois les gens, ils vont se disputer sur l'interprétation de la Bible. Il y a du vrai dans toutes ces choses, mais à la base, la Bible nous est donnée pour qu'on la connaisse puis qu'elle nous inspire. Et donc, ne faisons jamais l'erreur de la sceller puis de la mettre sur la tablette, d'accord? Je vous invite à continuer même à méditer, à lire l'Apocalypse, même si vous ne comprenez pas tout. Jésus dit à son peuple, « Heureux celui ou celle qui garde les paroles de cette prophétie. » Alors, garder, ce n'est pas le mettre sur l'étagère. Il faut que tu le lises. Et dans ton imperfection, tu le lis, puis si tu ne comprends pas, bien, tu peux en parler avec tes amis, avec ton pasteur, et ainsi de suite. Laisse la parole prendre racine en toi pour qu'elle fasse partie de ta vie. Le deuxième avertissement, n'essayons pas de changer les autres. Hein? C'est ma compréhension du verset 11, qui est un peu bizarre. Alors, le verset 11, vous vous souvenez, c'est là où l'ange dit que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Il y a même un passage encore plus dur où c'est Jésus qui dit « Dehors les chiens, dehors ceux qui prennent plaisir au péché puis qui préfèrent le mensonge à la vérité. » C'est un peu dur à prendre comme façon de parler, mais je vous propose une manière de comprendre ça qui va bien avec le reste de l'Apocalypse. C'est, écoutez, la parole de Dieu, elle est puissante. On le sait parce qu'on l'a vécu dans notre vie. Notre rôle, c'est de transmettre cette parole. C'est d'être des témoins de ce qu'on a entendu et vécu. On parle à nos amis, à nos membres de famille, de la parole, mais le résultat de cela dans leur vie, ça ne dépend pas de moi, n'est-ce pas? Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Donc, moi, je vais me concentrer sur moi-même. Je veux devenir encore un meilleur témoin. Je veux que cette parole de Dieu soit encore plus profonde en moi, puis mon comportement aussi. Mais quand même, je ne peux pas forcer les gens à qui je parle d'adhérer. Je peux leur en parler, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de voir la puissance de la parole de Dieu et de voir comment Dieu est fidèle pour faire agir sa parole. Je l'ai vécu récemment. Je vais vous expliquer une affaire merveilleuse qui m'est arrivée. Parce qu'en fait, moi, je suis devenu croyant. J'ai accepté de suivre Christ quand j'avais 17 ans. Puis à l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui n'étaient pas chrétiens. Puis je leur ai parlé de ma nouvelle foi, de Jésus, du mieux que je pouvais. J'avais beaucoup d'enthousiasme. Il y en a fort peu qui ont adhéré, OK? La grosse majorité ont rejeté mon message. Et à un certain moment, les gens se lassent d'écouter le prêcheur. Les gens aussi se dispersent. Et à un moment donné, j'ai laissé mes amis entre les mains de Dieu. Je me suis limité surtout à prier. C'est sûr que je profitais des occasions, quand je les voyais, de leur parler de ce qui se passait dans ma vie. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. La plupart de mes amis, en fait, Dieu est à l'œuvre dans leur vie, c'est vrai, mais je peux dire que la plupart n'ont pas encore accepté Christ. Par contre, j'ai reçu une lettre il y a 3 semaines d'un ami, je pense que je vous en avais déjà parlé. Lui, c'est un gars qui ne comprenait vraiment pas quand je lui parlais de Dieu. Et à 17 ans, on était bons amis, mais il a rejeté mon message. Je l'ai laissé aller. Il a vécu sa vie, puis en fait, il m'a recontacté quand il s'est retrouvé en prison pour des crimes qu'il a commis et qu'il a avoué même. Mais peu importe, on a repris contact, et puis il y a 3 semaines, il m'envoie une lettre, et dans cette lettre, il me dit qu'à travers les aumôniers de la prison, j'ai découvert Jésus. Et il me dit, je vis maintenant avec le Saint-Esprit. C'est incroyable, j'en revenais pas de lire sa lettre. Il dit, je me souviens quand tu me parlais de Dieu, Marc, en 1979, il se souvient même de la date. Il faut dire qu'en prison, on a beaucoup de temps pour réfléchir au passé. Et il m'a même dit la date, et puis et je me souviens des conversations. Il me dit, quelle erreur de ma part, j'ai rejeté ton message. Quelle erreur de ma part, il me dit. C'est drôle parce qu'il me dit, j'aimerais, quand je sors de prison, que tu m'aides à trouver une église et un pasteur. J'ai dit, j'ai des idées pour toi, mon ami. Bon, OK. Mais bon, bref. C'est pour dire que la parole de Dieu est à l'œuvre. Essayons pas de forcer les gens à changer, mais soyons des témoins fidèles. Amen. Le dernier avertissement, adore Dieu et pas ses instruments. Adore Dieu et pas ses serviteurs. C'est ce passage quand même assez frappant où Jean il est tellement béni qu'il commence à adorer l'ange, puis l'ange lui dit, « Non, je suis juste un serviteur comme toi, adore Dieu seul. » C'est Dieu qui veut être celui avec qui on a cette source de vie, et lui seul. C'est Dieu seul qui veut avoir cette intimité d'amour avec nous. Et nous sommes là, les uns avec les autres, pour nous encourager, mais notre cœur est... c'est facile pour le cœur humain d'être idolâtre. C'est un défaut qu'on a. On le voit déjà dans Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2 et 3. On transforme des choses créées en divinités qui ne sont pas des divinités. Et on prend des mauvais chemins. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance à vouloir nous éloigner de cette intimité que le Dieu créateur veut avec nous. C'est un terrible mystère, mais c'est vrai. Et donc, nous, on doit être vigilants, nous aussi, comme Jean a été invité à le faire. Il y a plusieurs domaines où on peut appliquer ce troisième avertissement. Je pense, par exemple, à une église comme l'Oasis, où il y a plusieurs pasteurs et plusieurs prédicateurs qui sont dans l'église, et des bons. Et peut-être on peut être béni par l'un d'eux tellement qu'on devient trop attaché. C'est pas comme ça que Dieu marche, que « Ah ben moi, mon pasteur, mon prédicateur préféré, c'est X, puis c'est juste lui, ou c'est juste elle, puis les autres dimanches, bien, je ne viendrai pas. » Non, c'est pas, Dieu veut utiliser une multiplicité d'ouvriers et tous les différents dons, toujours dans le même but de nous connecter à lui seul. Hein? Et c'est comme ça qu'on s'entraide, pas de nous attacher à des instruments qui peuvent être des personnes et qui ne sont que des créatures. Amen. Alors, ces avertissements sont là pour nous. Par contre, il y a une invitation à l'amour dans ce texte qu'il ne faut pas manquer. C'est au verset 17, un très, très beau passage qui dit « L'Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Donc, le disent à Jésus. Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de vie, elle la prenne gratuitement. Alors, c'est l'image du mariage. Et puis, l'invitation vient, l'invitation à venir, elle va dans les deux directions. Hein? Vous vous souvenez quand Jessica a prêché sur la Nouvelle Jérusalem, qui est le festin de noces de l'agneau, et elle a montré des images d'un mariage, où est-ce que le mari qui est en tuxedo, il attend avec fierté sa mariée qui arrive. Puis quand elle rentre dans la salle, il est complètement débobiné à cause de son émotion, son amour, son désir. Et on a vu plusieurs images. Et la mariée aussi, elle est toute débobinée, sauf qu'il ne faut pas qu'elle pleure parce qu'elle a tellement de maquillage qu'il ne faut pas qu'il y ait des espèces de, comment qu'on dit, des coulis, c'est ça. Mais des fois, c'est plus fort qu'elle. Et c'est un peu ça, l'Apocalypse. C'est un mariage, c'est l'annonce d'un mariage. C'est comme si nous, on est comme unis à Jésus en ce moment, mais on est comme fiancés maintenant. Puis le mariage s'en vient. Le mariage s'en vient. Les fiançailles, c'est déjà merveilleux. Mais dans les fiançailles, il y a un combat à livrer. Il y a un amour à donner et il y a un désir à communiquer. C'est merveilleux. Viens, mon marié, viens. J'ai hâte que tu viennes être uni à moi. Et le marié qui dit, viens, viens, ma belle. Viens, viens t'unir à moi. Oh, c'est merveilleux. Et c'est pour bientôt ce mariage. Moi, je me souviens quand Cheryl et moi, on n'était pas encore fiancés, mais sérieusement en fréquentation. Et elle est partie en Afrique pour 5 mois, en mission. Elle est allée au Sierra Leone, un pays qui n'était pas en guerre, mais presque, parce qu'il y avait une guerre civile au Libéria qui allait bientôt, malheureusement, atteindre le Sierra Leone. Et elle est allée là-bas. Elle faisait du travail vraiment important parmi les femmes dans les villes là-bas. Avec une équipe, mais nous, on était amoureux et on fréquentait et on était à grande distance comme ça. Et je peux vous dire, je parle de toi, mon amour. Oh! Oh! Bon, on va continuer. Oui, OK. Je te raconterai plus tard, Cheryl. On s'envoyait des lettres d'amour. On s'envoyait des lettres d'amour au-dessus de l'océan et des cassettes audio. Et euh, le postier là-bas, à Freetown, le postier qui lui donnait les lettres à Cheryl, il a essayé de me jouer un mauvais tour. Il a demandé Cheryl en mariage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle a résisté. Elle me trouvait plus à son goût, j'espère. Elle a résisté. Elle lui a dit, non, mais j'aime Marc. Tu vois, celui qui envoie les lettres, c'est lui que j'aime. Et elle a renoncé à ce postier. Et finalement, on s'est fiancés à son retour. On s'est mariés quelques mois plus tard, ou en tout cas 6 mois plus tard. Et c'est un peu ça, notre situation actuelle. Nous sommes fiancés à Christ et il nous demande d'être des témoins de notre amour pour lui et de continuer à vivre dans son amour. Oui. Et le dernier point, notre imagination. Le verset 6 nous dit « Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Tous les intervenants ici attestent que Jésus revient bientôt, puis tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, c'est la vérité. Dieu l'atteste. Dieu le Fils l'atteste, le Saint-Esprit l'atteste, l'ange l'atteste et Jean aussi le certifie, lui qui l'a écrit pour nous. Les nouvelles sont bonnes, on a un bonheur qui nous attend. Laissons ce bonheur sculpter notre vie. Laissons ce bonheur qui nous a annoncé nous laisser rêver. Des fois, c'est peut-être... Je pense que c'est bon d'imaginer la vie dans la Nouvelle Jérusalem, une vie où est-ce qu'on n'aura plus les problèmes de ce monde. Mais la raison que ça nous est annoncé, c'est aussi pour planifier avec créativité et audace une nouvelle manière de vivre, de nouvelles manières de servir Dieu pour préparer la venue du royaume. Je vous donne un exemple dans notre vie terrestre, notre vie de tous les jours. Mettons, toi, tu vis à Amabé ou à Pierrefonds, et puis tu as un emploi. Tu as un emploi qui est proche de chez toi. C'est un emploi passable, on va dire. Tu travailles fidèlement, mais en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on vient de t'offrir une job bien meilleure. Une job bien meilleure avec une description de tâche qui correspond beaucoup mieux à ce que tu aimes faire. La paye est meilleure, les avantages sociaux sont meilleurs, il y a un plan dentaire en plus, et les conditions sont bonnes, le boss est vraiment gentil, et les collègues aussi. Le problème, il y a juste un problème, c'est que c'est loin de chez toi, c'est vraiment dans un quartier beaucoup plus loin, mais la job a été offerte. Puis tu te dis, je peux l'avoir, puis oui, je la veux, cette job. Alors, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences à planifier de mettre de l'argent de côté pour obtenir un moyen de transport. Peut-être que c'est juste des passes d'autobus mensuelles. Peut-être que tu vas t'acheter une auto. Peut-être que tu vas t'acheter une auto électrique si tu veux faire attention à l'environnement. Peu importe, tu vas te faire un plan parce que tu vois que ce qui était un rêve avant, c'est quelque chose qui est une réalité que tu vas atteindre. Alors, l'Apocalypse, c'est la même chose. Laissons l'Apocalypse enflammer notre imagination. Même dans nos choix de la manière qu'on vit ici sur Terre, même dans les mois qui viennent, les années qui viennent, tu dois déménager. Ton choix de nouvel appartement, est-ce que tu peux penser aussi à par rapport au royaume de Dieu, son rôle dans le royaume de Dieu et ton rôle dans le royaume de Dieu? est-ce que ça peut inclure ton ministère auprès des autres, là où tu vas vivre? Peut-être que tu vas faire des rénovations dans ta maison. Est-ce que c'est juste pour toi puis ta famille? C'est peut-être aussi pour quelque chose de plus grand. Laisse Dieu exciter ton imagination. Tes finances, seulement pour toi et ta famille, déjà si tu penses à tes enfants, c'est bien, mais Dieu veut que tu penses plus loin encore. Il y a la mission, il y a le travail du royaume. Ta formation, toi qui es jeune, tu te formes pour une profession, c'est déjà puissant, Dieu va l'utiliser. Pourquoi pas faire un peu plus de formation pour mieux connaître Dieu et sa parole, pour te préparer pour un service du royaume? Ton temps, est-ce que c'est 24/7 pour le travail et la famille? Nous sommes tous en train d'apprendre à mettre du temps de côté pour passer du temps avec Dieu et du temps de repos en sa présence. Parce que c'est en vivant cette intimité avec notre Père céleste qu'on devient de plus en plus connecté avec le royaume qui vient, puis qui est déjà ici, puis qu'on est en train d'apprendre à voir. Alors, pourquoi pas cet été, laisse aller ton imagination pour qu'au retour des vacances, nous puissions ensemble entrer dans de nouveaux temps de grâce pour l'Oasis. Laisse aller ton imagination. Prie cet été par rapport à peut-être l'année qui vient de s'écouler, mais aussi l'année qui vient. Dieu veut vivre de belles choses avec toi. Et il veut vivre de belles choses avec l'Oasis. Donc, je résume ce que je viens de dire pour conclure. On a vu trois enseignements dans cette conclusion de l'Apocalypse. Premièrement, on n'oublie pas les avertissements. Hein, on en avait vu trois. Premièrement, ne pas mettre la parole de Dieu sur la tablette, mais la lire. Deuxièmement, ne pas adorer les serviteurs de Dieu ou les instruments de Dieu, mais Dieu seul. Puis le troisième, aidez-moi, c'était... Ce n'est pas changer les gens, mais soyons des communicateurs de la vérité de Dieu, puis il va faire le reste. N'oubliez pas l'invitation à l'amour. Hein? C'est à la base. C'est Dieu est venu, nous a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir à notre place. Et c'est sa déclaration d'amour. Et non seulement ça, mais il nous envoie l'Esprit Saint pour nous éveiller à l'amour. Il nous envoie un genre de sérum d'amour qui nous donne des sentiments d'amour pour Dieu à chaque jour. Nous devons apprendre à le vivre de plus en plus. Puis troisièmement, pensons, imaginons ce qu'on peut faire pour Dieu individuellement, mais aussi comme en tant que famille, en tant que couple et en tant qu'Église. Alors, prenons un moment pour prier. Et je pense que c'est ma dernière diapo. Oui. Prenons un moment pour prier. Peut-être que quelques-uns aimeraient élever la voix. Alors, priez d'une voix forte pour que tout le monde puisse vous entendre. Et puis, je vais dire la prière à la fin, avant d'inviter les musiciens. Oui, Seigneur, on est tous des témoins et parfois on se sent si imparfait. Et parfois on sent que nos mots, la manière qu'on répond aux gens, on aurait pu faire mieux. Mais c'est toi qui es à l'œuvre. Alors, c'est toi qui utilises nos mots imparfaits. Et il y a des milliers de personnes qui ont été atteintes par ta parole à travers les personnes assises ici ce matin. Et Seigneur, nous te remettons l'œuvre de ta parole. Oui, nous ne pouvons pas les forcer, mais nous pensons à eux maintenant. Nous pensons à la bonté de ton amour qui agit dans leur vie en ce moment même. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, nous dit ta parole. Et Père, donc on te remercie. On te demande de nous redonner courage, nous redonner force pour être des témoins fidèles et enthousiastes. Je prie entre autres pour Mimi qui est une témoin enthousiaste et elle a besoin de repos et que durant ses vacances, Seigneur, que tu renouvelles son désir qui est encore là. Je sais que son désir est encore très fort de témoigner, mais elle a besoin d'être ressourcée. Alors, Seigneur, ressource-la et je te prie pour elle, je te prie pour tous ceux qui sont fatigués. Je sais que Pascal est fatigué, je sais que plusieurs ont travaillé très, très fort cette année dans leur ouvrage séculier et dans l'Église. Ô Père, dans ta grâce, donne-nous ce repos pour nous ressourcer et pour enflammer aussi nos idées, notre vision d'avenir. Merci Jésus, et nous disons tous ensemble Amen. Amen.